Radio Okapi. Journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Moïse Katumbi n'a pas pu fouler le sol de la province du Congo central ce mardi comme initialement prévu. Le leader de Ensemble pour la République a été empêché par la police au niveau de la cité de Mitendi, frontalière du territoire de Kasangulu. Le gouverneur du Congo central justifie cette décision par l'effectif insuffisant des forces de l'ordre face à la complexité des activités qu'il prévoyait de mener au Congo central. Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi, confirme que ce dernier a rebroussé chemin pour ne pas exposer ceux qui le suivaient. Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale ce 23 mai, occasion de se rappeler ces femmes de l'Est de plus en plus nombreuses à être touchées par cette maladie. Elles ne peuvent pas recevoir de soins, pourtant gratuits, à cause de l'insécurité. Dans ce journal, l'appel du docteur Albin Baraka Munyanderu, gynéco-obstétricien à Butembo, Fistula Hospital. Le représentant de l'UNICEF en RDC et l'invité de ce journal, Grande Léaïti, a été à Kananga la semaine dernière pour évaluer les activités menées par cette agence en faveur des enfants à la suite des événements de Kamuina-Nsapu. Bonsoir à tous. L'accès de la province du Congo central au leader du parti politique Ensemble pour la République a été empêché par la police au niveau de la cité de Mitendi, à la limite entre Kinshasa et le territoire de Kasangulu ce mardi. Le gouverneur de province a demandé à Moïse Katumbi de décaler de 48 heures sa tournée au Congo central. Dans la correspondance contenant cette décision, Guy Bandou évoque les impératifs sécuritaires ces dernières semaines et l'effectif insuffisant des forces de l'ordre face à la complexité des activités de Moïse Katumbi au Congo central. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Dans sa correspondance, en guise de réponse à la lettre d'information sur la tournée du président national de l'Ensemble pour la République, le gouverneur de province du Congo central, Guy Bandou Ndungidi, demande à Moïse Katumbi de reporter ses activités de 48 heures voire 72 heures et ensuite de les limiter en une seule journée et à un lieu déterminé. Dans cette lettre, le chef de l'exécutif provincial du Congo central motive sa décision en évoquant la situation sécuritaire très volatile dans le Congo central ces dernières semaines, notamment des cas d'infiltration dans les territoires de Madimba des éléments de la milice Mobondo, situation autour de laquelle tous les services de sécurité provinciaux sont mobilisés. C'est mardi 23 mai, l'accès au Congo central à Moïse Katumbi, leader national de la plateforme politique Ensemble pour la République, a été empêché par la police au niveau de la frontière entre Kinshasa et le Congo central, située dans la commune de Mongafula. Plusieurs sources affirment que la tribune érigée pour accueillir les meetings prévus ce mardi de Moïse Katumbi en Banzangungu a été démolie cet avant-midi par la police. Contacté, Fiston Lutonadio, coordonnateur provincial de la plateforme politique Ensemble pour la République, s'est dit indigné de la manière dont les décideurs ferment la porte à Moïse Katumbi dans l'une des provinces de son propre pays. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et selon le porte-parole du leader de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a regagné sa résidence à partir de la cité de Mitendi afin d'éviter d'exposer, je cite, la population nombreuse venue à sa rencontre à la soldatesque du pouvoir. Olivier Kamitatu est au micro de Paul Matendo.
À Mitendi, les forces policières déployées par le gouverneur de la province avaient reçu mission d'empêcher le président Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Fort des enseignements de la marche du 20 mai dernier, réprimée par le pouvoir et ses milices dans le sang, le président Moïse Katumbi a pris la décision de ne pas exposer la population nombreuse venue à sa rencontre devant la soldatesque du pouvoir. Aussi a-t-il décidé de regagner sa résidence. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Moïse Katumbi reviendra au Congo central et continuera sa tournée dans l'ouest du pays. Nul ne peut empêcher un citoyen, quel qu'il soit, de circuler librement dans son pays.
Et puis, nous l'apprenons à l'instant, le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, est rappelé d'urgence ici à Kinshasa. L'information est contenue dans un télégramme officiel envoyé ce soir par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Peter Kazadi. S'agissant des violences et autres dérapages enregistrés lors de la marche de l'opposition samedi dernier à Kinshasa, l'Association africaine des droits de l'homme, AZADO, condamne. Pour lui, tout cela aurait pu être évité si la police s'était montrée républicaine malgré le non-respect de l'itinéraire par certains manifestants. Au micro de Babel Mpongo Massimango, Jean-Claude Katende, président de l'AZADO, fait tout de même quelques suggestions pour éviter de retomber dans de telles situations à l'avenir.
Qu'on puisse former toute la police nationale sur les questions de démocratie et des droits de l'homme. Ce sont eux, en cas de manifestation, de contestation, qui seront à l'action. Qu'on puisse identifier les civils et les policiers qui ont commis les bavures et organiser un procès qui devra passer à la télévision pour que les autres policiers et les citoyens suivent et qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi. Le gouverneur de Kinshasa devra s'interdire de permettre à plusieurs partis d'organiser des marches le même jour. Il faudra un dialogue sincère entre les politiciens qui organisent les manifestations et les autorités politiques. Les responsables de la ville doivent mettre fin à la discrimination et aux injustices. Quand les partis de la majorité demandent un itinéraire, on le leur donne. Il faudra un traitement égal pour tout le monde.
Du côté de la MONUSCO, on condamne l'usage disproportionné de la force par la police lors de ces manifestations de l'opposition congolaise. La mission onusienne invite les autorités à respecter strictement les principes de l'usage de la force dans le cadre de maintien de l'ordre et à respecter le droit à la liberté de réunion et des manifestations pacifiques. La MONUSCO joint sa voix à celle des droits humains, appelant à l'ouverture d'une enquête et à traduire les responsables des violences devant la justice, tout en saluant l'arrestation des policiers impliqués dans l'incident contre un mineur. Et puis cette décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, rendue publique dans un communiqué ce lundi. La chaîne de télévision CML 13 TV est suspendue pour une durée de 45 jours et son signal coupé. Le journaliste Louis-France Kouzikessa, animateur de l'émission Libre Débat, est lui suspendu de passage de tous les médias pour 72 jours. Le député national Daniel Safou et le député provincial Mike Mukebai sont eux privés de passage dans tous les médias pour une durée de 3 mois. Ils ont tous deux participé à l'émission du journaliste après la marche de l'opposition du samedi 20 mai. D'autres détails avec Jacques-Yves Molima.
D'après le communiqué, le contenu de l'émission Libre Débat, menée par le journaliste Louis-France Kouzikessa, qui recevait les deux députés, a fait véhiculer le discours de la haine et des propos tendant à inciter à la violence contre une tribu et à des attaques personnelles. Le communiqué souligne qu'il est clairement établi dans le chef du présentateur et de ses invités une volonté délibérée de mettre en péril la cohésion nationale. De ce fait, toujours dans ce communiqué, le CESAC recommande d'une part aux chambres parlementaires concernées d'ouvrir des actions disciplinaires pour décourager cette délinquance dans les médias et d'autre part demande aux instances judiciaires de se saisir en flagrance au sujet des deux députés auteurs de ces infractions. Quant aux journalistes, son dossier est transféré à l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, pour une étude et des actions disciplinaires éventuelles. Notons enfin que le CESAC rappelle aux professionnels des médias que la diffusion des propos de la haine et d'incitation à la violence constitue une violation tant de la loi que du code de déontologie des journalistes et expose leurs auteurs à des sanctions sévères.
Célébration ce 23 mai de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale dans les zones en proie à l'insécurité, particulièrement dans les régions de Beni, Lubero, Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Le nombre de femmes touchées par cette maladie est élevé et pour cause les difficultés d'accès aux soins pourtant gratuits. C'est ce qu'a fait remarquer ce mardi à Radio Okapi, Dr Baraka Munyandero Albin, gynéco-obstétricien à Butembo Fistula Hospital. Il encourage en effet les femmes qui présentent des signes de cette maladie à s'orienter vers des structures sanitaires appropriées pour une prise en charge adéquate. Il explique d'autres facteurs au micro de Grévis Salomon.
La sécurité fait à ce que nous ayons des problèmes dans la vulgarisation du message. Un problème de déplacement des malades qui sont dans des zones insécures et qui sont difficiles à nous atteindre. Cette insécurité augmente les cas suite aux soins obstétricaux précaires et au mouvement de la population. À part la sécurité, il y a des routes qui ne sont pas praticables qui font à ce que nous ne pouvons pas atteindre le malade et ces malades ne peuvent pas venir aux soins facilement. Un troisième problème, c'est l'ignorance de la population qui assimile ces problèmes de fistules à une sorcellerie, à des mythes, alors que c'est une maladie curable après ce diagnostic. Tous les malades ayant la difficulté de contrôler volontairement les urines et les gaz après accouchement sont priés d'être orientés à la structure spécialisée pour que tous puissions éliminer la fistule d'ici 2030, c'est ça l'objectif.
Soulignons que le thème retenu cette année pour cette journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale est 20 ans après des progrès insuffisants, agissons maintenant pour éliminer la fistule obstétricale d'ici 2030. Au sud Kivu, les préjudices causés aux populations de Bushushu et Nyamukubi par la catastrophe naturelle survenue à Calais le 4 mai dernier touchent les uns et les autres. En tout cas, les privés comme les humanitaires se battent pour atténuer tant soit peu le choc subi par les sinistrés. Une équipe de psychologues sillonne tous les sites qui abritent provisoirement les sinistrés pour une prise en charge psychologique. Jean Kassami a assisté dimanche dernier à l'une des séances dites des détraumatisations tenues à la paroisse d'Ihusi Calais par les volontaires du centre au Lamé de Bukavu. Jean Kassami revient de Calais. Voici son reportage.
Les activités étaient focalisées sur les exercices de prise en charge psychologique. Abel Angentoali Furaha, animatrice au centre Lamé de Bukavu.
Après cette catastrophe qui est arrivée, certaines personnes ont perdu les membres de leur famille, ils ont perdu leurs biens. Et nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs assistances qui venaient pour aider ces gens. Mais la prise en charge psychosociale n'était pas vraiment encore prise en compte. Les gens avaient besoin d'un accompagnement psychologique. Nous voulons le rendre encore confiant afin qu'il puisse se relever. Bien qu'il y ait ces sinistres, la vie doit continuer.
708 personnes ont été soumises au débriefing émotionnel à Bushushu, 500 à Nyamukubi et 280 personnes déplacées d'Akale et Centre. Partout où le briefing a eu lieu, on y a placé des points focaux choisis dans la communauté, formés par les psychologues, et ce sont les mêmes points focaux qui vont assurer le suivi des détraumatisations sous contrôle du centre Olamé. Samedi passé, la commission chargée de la gestion de la catastrophe avait publié un chiffre de 432 corps déjà retrouvés et enterrés par les volontaires de la Croix-Rouge de retour de Calais. Jean Kassami, Radio Okapi.
La SNCC s'emploie à évacuer tous les stocks de marchandises qui traînent depuis plusieurs mois dans différentes gares. Déclaration lundi à Radio Okapi du directeur régional des Grands Lacs de la SNCC. Félicien Senga annonce qu'une locomotive a quitté le territoire de Kabalo ce lundi en direction de Kindu en passant par Kongolo. Paul Amunanga.
Le directeur régional de Grand Lac de la SNCC qui est basé à Kalemi indique que la société fait face à des pannes de locomotives. La conséquence, c'est la réduction des tractions des wagons sur les réseaux, ce qui fait que des wagons de marchandises des clients traînent dans différentes gares depuis plusieurs mois. C'est notamment à Kongolo où il y a 24 wagons, au niveau de la gare de Samba, 12 wagons et à Lubunda, 9 wagons contenant essentiellement du sel, du ciment et des produits divers, tous à destination de Kindu, annonce Félicien Senga, directeur régional des Grands Lacs de la SNCC. Il signale qu'une locomotive est en mouvement de Kabalo vers Kindu en passant par Kongolo pour tracter les wagons de marchandises et deux autres locomotives pourraient quitter Kamina d'ici quelques jours pour effectuer la même mission, indique ses responsables de la SNCC. Il rassure la clientèle que l'engagement de la société reste celle de transporter la marchandise et l'amener à destination en toute sécurité. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, des tirs sporadiques ont été entendus ce mardi à Khartoum, malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve entre l'armée et les paramilitaires. Trêve censée permettre à des civils de fuir et à l'aide humanitaire d'être distribuée. Cet après-midi, un calme précaire régnait dans différents quartiers, ainsi que dans plusieurs villes du Darfour, région de l'Ouest la plus touchée par la guerre avec Khartoum. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide a fait 1 million de morts et plus d'1 million de déplacés et réfugiés au Soudan.
L'invité.
Le représentant de l'UNICEF en RDC a été à Kananga au Kasaï central la semaine dernière. C'était pour évaluer les activités menées par cette agence en faveur des enfants à la suite des événements de Kamuna Sapu. Grande Léa Iliti a visité certaines écoles et d'autres infrastructures sanitaires construites avec le financement de l'UNICEF. Revenant sur certaines réalisations, il a indiqué que plus de 170 ont été remises en état par l'UNICEF et d'autres partenaires et plus de 300 autres vont l'être pour améliorer la scolarisation des enfants. Grant et Haïti s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Grant, le Haïti, bonjour.
Bonjour.
Quelle lecture faites-vous de l'action menée par l'UNICEF aujourd'hui au Kasaï?
La première chose qu'on voit, et on est vraiment content pour le Kasaï et le Grand Kasaï, c'est qu'on est dans une situation maintenant de pacification après une époque de beaucoup de conflits. Donc ça c'est vraiment parce que ça permet de reconstruire et de relancer la machine de développement. Évidemment, il y avait aussi, comme partout en RDC, l'impact de pandémie, mais ce que je vois maintenant est clairement un relancement. Un très bon exemple, c'est je trouve qu'il y a plusieurs formules innovateurs ici que je veux en Kasaï.
Lesquelles?
Par exemple, donc avant, on avait pour les actes de naissance, la seule personne légalement avec le pouvoir de signer l'acte de naissance, c'était le gouverneur. Mais le gouverneur est très souvent en déplacement, et donc c'était un véritable goulot d'étranglement, et beaucoup de mères, surtout ceux qui vivent très loin, du coup, ils ont juste décidé, au lieu de patienter, ils ont juste décidé de laisser tomber. Maintenant, je pense que c'est quelque chose comme on a établi un réseau de plus que 360, si je me souviens bien, de ce qu'on appelle lieu secondaire. Et donc, ces personnes sont mandatées de faire les actes de naissance. Il y a une délégation de pouvoir de la part du gouverneur. Donc, on a vu les tables de suivi par mois auparavant. Combien de naissances, combien de demandes pour les actes de naissance et combien de cas échoués. Et on voit avec la mise en place de ce dispositif qui est fait donc avec les autorités, que le nombre de cas échoués, maintenant, c'est descendre de pratiquement zéro.
Parlons de la scolarisation des enfants. Vous êtes passé par Mulombodi, où il y a des écoles construites. On en a combien aujourd'hui? Avez-vous un peu le tableau des écoles réhabilitées ou construites par l'UNICEF? Est-ce que ça vous satisfait?
Le défi pour la question des écoles, le chiffre que j'ai, c'est qu'il y avait 542 écoles détruites. Et que avec l'UNICEF et plusieurs autres partenaires ensemble, on a déjà construit 179 écoles. Ça veut dire qu'il reste encore 363. Donc ça, c'est un progrès, c'est pas négligeable. Ça prend, il faut compter peut-être 3 mois quelque chose, et aussi des ressources pour la construction d'une école. Parce qu'après, c'est aussi d'amener le matériel, c'est pas uniquement la construction de bâtiments. Mais donc, je pense que sur la scolarisation avec le programme national de gratuité pour l'école primaire, on voit des vraies avancées pour l'école, au niveau école primaire. Mais il est tout à fait clair que c'est important de trouver des solutions pour les 363 écoles qui ont été détruites et où on n'a pas encore fait le construction.
Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez pour le reste? Est-ce qu'il faut encore trouver des moyens où l'UNICEF a déjà projeté construire ces écoles pour permettre aux enfants, surtout avec la gratuité, d'accéder à la scolarité?
C'est un bon exemple de pourquoi c'est tellement important ces gens de visite terrain. parce que ça me permet maintenant, après avoir vu, de mieux, de pouvoir échanger avec les autorités au niveau national, parce que ça c'est le départ. Hein. On n'est pas là dans le cadre de faire de quelques petits projets à droite à gauche, on est là pour appuyer les programmes du ministère, de l'État. Donc, on va discuter avec le ministère et après aussi le bailleur. Il y a de nouveaux fonds disponibles pour au niveau national, mais j'aurai besoin d'aller discuter le détail avec les autres partenaires. Et notre but, c'est d'accompagner et les autorités et la communauté pour faire avancer la situation des enfants et leurs familles.
Monsieur Grant, le Yati, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.